Yo-Yo et Voulons-nous encore vivre ensemble, ce livre paru aux éditions Odile Jacob, avec, pour être complètement honnête, aussi le message de Branca qui nous a été envoyé et qui nous dit la fête des Lumières à la Ken, qui est une fête qui rassemblait à la base différentes associations à laquelle s'adjoignent aujourd'hui pas mal de monde vivant dans la commune ainsi qu'à l'extérieur de la commune, qui a lieu au mois de décembre. Elle nous dit, nous a prouvé que l'organisation puis l'expérience de vivre des événements en groupe ensemble revigore, ressource ceux qui y participent. Ce sont des moments de grâce, nous dit-elle. Pierre-Henri, dans votre livre, je le disais, vous revenez sur certains éléments. Alors, vous ne dites pas que c'est une liste exhaustive des choses qui nous séparent, mais vous revenez sur les éléments qui peuvent nous séparer. Vous posez des questions par rapport à ces éléments-là, comme la lutte des classes, la guerre des sexes, la guerre des générations. Je ne m'appesantis pas dessus parce que ce sont des choses qui reviennent depuis déjà plusieurs années. Par contre, j'étais surprise d'y retrouver des éléments plutôt nouveaux, en tout cas moi que j'ai trouvé nouveaux, comme le wokisme ou la lutte des races.
Oui, alors d'abord il faut bien prendre le contexte, c'est-à-dire que dans nos sociétés justement d'individus, on peut être tenté par le repli sur soi ou avoir un autre rapport à la société, c'est un rapport conflictuel. Il y a une forme de séduction des conflits, qu'on peut essayer de comprendre d'ailleurs. Parce qu'en fait, on vit dans des mondes extrêmement complexes et on n'a pas de grille de lecture pour expliquer la société. Jadis, il y avait les idéologies, il y avait peut-être les religions qui nous permettaient de comprendre ce qui se passait au fond. Et donc, on est en quelque sorte aspiré, comme attiré par des scénarios qui nous disent « Bon, les choses vont pas bien, mais au moins on comprend ce qui se passe. » Or, le scénario de la guerre est un scénario très tentant de ce point de vue-là, parce que d'une certaine façon, il y a les bons et les méchants. Alors, en général, les bons, c'est nous, les méchants, c'est les autres. Mais ça nous permet de comprendre les choses. Et donc, il y a un retour massif, si je puis dire, du scénario de la guerre pour expliquer l'intégralité de la société, et même sans parler d'une seule guerre, quatre guerres, voire cinq guerres, qu'on soit de gauche ou de droite, peu importe, c'est tout à fait transpolitique, mais donc il y a la lutte des classes, c'est le plus classique, c'est-à-dire l'idée que les seuls rapports sociaux sont des rapports de conflictualité entre les riches et les pauvres. Il est évident que des tensions existent entre les riches et les pauvres, ça serait une très grande naïveté de le nier, mais est-ce pour autant une guerre? De la même manière, la guerre des sexes, vous en avez parlé tout à l'heure, juste avant, dans l'émission précédente, est-ce qu'on est dans une logique vraiment de conflictualité ou simplement il faut retrouver à la faveur de l'émancipation et de l'égalité de la femme désormais acquise, est-ce qu'il faut trouver un nouveau mode de fonctionnement? Et puis en effet, il y a des thématiques nouvelles comme la thématique effectivement de la guerre des races ou de ce qu'on appelle généralement le wokisme, mais qu'il faut définir. Le wokisme, si on dit simplement que le wokisme c'est la lutte contre les discriminations, ben ça c'est tout à fait légitime et c'est même nécessaire. En revanche, le wokisme c'est une idéologie qui dit que tout est discrimination, c'est vraiment tout. Tout absolument. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les choses vont mieux entre les hommes et les femmes, que le racisme est derrière nous, que en réalité c'est une erreur, que la colonisation est passée, c'est une erreur, les choses vont de pire. C'est vraiment une vision du monde par nature conflictuelle. C'est-à-dire quelqu'un qui vous offre des fleurs, si je puis dire, c'est du patriarcat. C'est pas de la galanterie, c'est du patriarcat. Ou plus exactement, la galanterie, c'est du patriarcat. Donc, des signaux qui vous paraîtraient plutôt positifs doivent être interprétés comme étant le reflet d'une conflictualisation de la société. C'est ça qui explique le mot woke. Le mot woke, ça veut dire, vous croyez que les choses vont bien? Non, c'est une catastrophe, ça va de pire en pire. Il faut donc se réveiller. Et à partir du moment où on s'est réveillé, il faut évidemment agir. Ça, c'est une idéologie de la conflictualisation. Ce qui ne veut pas dire que des tensions n'existent pas. Bien sûr qu'elles existent, que des discriminations n'existent pas. Bien sûr qu'elles existent, ces discriminations. Mais d'envisager la société comme un vaste champ de bataille, voilà, qui contribue à tendre durablement et gravement, à mon sens, les relations humaines qui vont déjà pas forcément très bien.
Pourquoi est-ce que ce conflit ou conflictualisation a pris aujourd'hui tellement d'importance, Pierre-Henri? Il y a quelques années, on disait le conflit c'est pour la France, le consensus c'est pour la Belgique. Aujourd'hui, on remarque qu'au niveau belge, on parvient plus à trouver de consensus ou de plus en plus difficilement trouver de consensus.
Eh bien, en fait, on est en quelque sorte, comme je disais, aspiré par ces grilles de lecture. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est comme pour la santé. En fait, on voit rarement qu'on est en bonne santé, mais tout de suite qu'on est malade. Et donc, à certains égards, la maladie existe davantage que la santé. Pour la société, c'est pareil. C'est-à-dire que si on voit qu'effectivement les choses se tendent, ça existe et plus visible. Vous voyez, les informations nous racontent les mauvaises nouvelles, rarement les bonnes. On entend l'arbre tomber, mais jamais la forêt pousser. Or, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est justement la forêt qui pousse. Mmh. C'est-à-dire, pour une part, effectivement, on sent que la société se conflictualise et on est assez aveugle aux choses qui persistent et aux choses qui se reconfigurent. Mmh. Et il me semble que nous avons aujourd'hui, dans nos sociétés démocratiques et européennes, des ressources très fortes. Vous citiez tout à l'heure les fêtes de village. Voilà, il y a des moments où on a des petites ressources. Personne ne voit, ça n'intéresse que ceux à la limite qui en font partie, mais qui sont très puissantes parce qu'il y a un appétit de la vie commune. Cet appétit est en quelque sorte camouflé par les scénarios de guerre que je trouve de ce point de vue-là, pour moi, détestable.
Pour autant, Pierre-Henri Tavoyeux, certains nous diront « Oui, mais il faut mettre en évidence les choses qui ne vont pas justement pour améliorer le vivre ensemble. » Prenons par exemple la guerre des sexes, mettre en évidence les inégalités vécues par les femmes ou mettre en avant le MeToo pour mettre en évidence ce qui ne va pas et ainsi aller un step plus loin et essayer de réparer les choses. Ce que vous dites finalement, c'est qu'on essaye, on nous plonge parfois dans l'étape qui reste celle du conflit et pas celle de la réparation, que pour le vivre ensemble, on doit aller vers une forme de réparation et pas rester dans le conflit.
Oui, c'est toujours un peu une idée d'une histoire. Alors moi, c'est pas ma tasse de thé, mais il faut être excessif pour pouvoir faire avancer les choses. Mmh. Moi, je crois pas. C'est-à-dire, je crois que la radicalité, que l'excès est un frein parce que ça braque, parce que ça provoque, parce que ça... Donc je vois pas que l'histoire s'avance par des excès, puis ensuite, voilà, on redevient sage. Les moments révolutionnaires, y compris en politique, sont des moments qui sont toujours très violents. Et la révolution, ça demande un temps énorme pour être réparé. Donc, je suis de ce point de vue-là politiquement plutôt réformiste que révolutionnaire, parce que je trouve que la révolution retarde le progrès. Et la réforme le permet.
On va reparler aussi évidemment de ce qui nous permet de vivre ensemble aujourd'hui, ce qui nous unit. Vous parlez des 7 piliers de la convivialité. En tout premier lieu, on retrouve la bonne bouffe.
Oui, la bonne bouffe. Alors, effectivement, parce que bon, je suis français et que les Français sont champions du monde du temps passé à table. Voilà, donc ça, c'est très très important. 2h13 par jour. Il y a des pays où ça descend en dessous de la demi-heure. Le repas me paraît vraiment, c'est pas habituel qu'un philosophe s'intéresse à des questions aussi triviales.
Voilà, moi je trouve pas ça trivial, mais
non, on est d'accord. Et c'est fondamental. Et pour tout vous dire, on vient de passer les fêtes, donc en général les réunions de famille et souvent, voilà, au moment du dessert quand. Le grand tonton a le malheur d'avancer, disons, une considération un tout petit peu politique sur la situation. Bah, le repas va très très rapidement, le cas échéant, mal tourner. Donc j'ai essayé, avec ce bouquin, de réfléchir effectivement aussi comment on peut passer un bon repas. Alors pas forcément sans s'engueuler, parce que, disons, les disputes, ça fait partie de la vie, il ne faut pas vouloir les abolir.
Mais d'autant que même dans le repas, les sujets de disputes sont devenus de plus en plus nombreux. On peut parler des végétariens versus les carnivores ou ce genre de choses. Il y a plein d'éléments aujourd'hui qui se
s'invitent. Oui, ce qu'on appelle des séparatismes.
Voilà, oui.
Des séparatismes alimentaires, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, préparer un repas, ce n'est pas simplement le faire, c'est aussi demander à tout le monde les allergies, les choix personnels, végétariens, véganes, halal, toute une série d'éléments qui font effectivement que on ne mangera plus ensemble. Ma conviction profonde, en tout cas pour l'Europe et pour la France et la Belgique, on partage beaucoup de valeurs de ce point de vue-là, c'est que le repas reste essentiellement, non pas un moment de nourriture, mais un moment de partage. Mmh. Et que cette dimension-là est absolument essentielle, et que justement, on voit que en dépit de tous les séparatismes, en dépit de tous les choix individuels, ce moment reste un pilier révélateur de plein de choses. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant à la fois sociologiquement, mais aussi philosophiquement, de s'intéresser à ce repas partagé.
Mmh. Avec des réactions qui nous arrivent, Nicodème qui nous dit par exemple « Le problème aujourd'hui, c'est que sans radicalité, pas de visibilité », nous dit-il.
Oui, c'est incontestable, mais je ne suis pas sûr que cette radicalité ni cette visibilité, ce qu'on peut appeler les tyrannies, à certains égards, produisent des effets qui sont des effets extrêmement positifs. Mmh. Si on regarde les relations hommes-femmes, par exemple, les relations hommes-femmes, la révolution du féminin a eu lieu de manière époustouflante en à peu près 50 ans. En 65, l'année de ma naissance, donc je suis un vieux, la femme n'est pas considérée comme une adulte. De plein exercice. Voilà. C'est quand même un truc qui est absolument révolutionnaire. Et Il n'a pas fallu forcément des radicaux pour faire évoluer les choses. Il a eu en 50 ans une révolution anthropologique de la totalité de la société qui a fait en sorte effectivement que pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, la femme est un adulte comme un autre. Ce qui change considérablement aussi le rapport de l'homme à l'adultité, si je puis dire. Cette révolution a été rapide, mais elle a été sociale. Alors, il y a encore plein de choses à faire en la matière, c'est incontestable. Mais c'est une révolution qui n'a pas été conduite par des radicaux qui ont voulu tout changer d'un seul coup. C'est vraiment l'ensemble de la société. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi ça a eu lieu? Quelles sont les forces qui ont eu lieu? C'est pas une espèce d'avant-garde qui a décrété que les choses allaient radicalement changer. C'est l'ensemble de la société. Donc, ce phénomène doit être compris pour être ensuite étayé, accompagné, et approfondi, évidemment.
Dans ce qui nous unit aussi, vous parlez évidemment du couple, de l'amour, de faire des enfants et autres. Et puis vous parlez aussi de discuter ensemble, de ce qui peut nous permettre de débattre, par exemple. Et vous posez quatre questions extrêmement intéressantes. Parlons-nous la même langue? Avons-nous la même histoire? Avons-nous la même culture générale? Et avons-nous la même vérité? Si on s'arrête uniquement à ces questions sans les décortiquer, on se pose un petit peu, on se demande un petit peu pourquoi ça vient là. Et puis on se rend compte que quand vous parlez de la même langue, vous parlez de l'écriture inclusive qui sépare. Vous parlez de la même histoire, vous nous parlez du roman national. Culture générale, la dispute du socle commun. Ou la même vérité, la dispute de la déconstruction. Et on voit à quel point aujourd'hui il est difficile parfois de débattre de ces questions-là. Je vous propose, parce que sinon on va être interrompu, Pierre-Henri Tavry, l'homme n'est pas fait pour vivre seul, on a besoin des autres à tout point de vue, entraide, partage des idées, socialisation, etc. etc. Il nous donnait un petit exemple avec sa belle-mère qui est en maison de repos, qui au début ne voulait pas participer aux activités ni rejoindre les autres, elle préférait rester seule, mais qu'aujourd'hui, maintenant qu'elle est immobilisée, elle se sent enfermée dans sa chambre et voudrait aller vers les autres. On reparle, on gagne 3 minutes pour discuter encore avec vous, finalement, formidable, hein. Pour reparler de ce qui nous unit dans votre ouvrage, et je parlais de cette façon de débattre aujourd'hui, ou de ne plus forcément débattre, et en tout cas de pouvoir discuter de sujets qui paraissent aujourd'hui ou qui sont présentés comme clivants. Vous revenez sur parlons-nous la même langue, la dispute de l'écriture inclusive, la dispute du roman national pour l'histoire, la dispute du socle commun pour la culture générale, et la déconstruction pour la vérité, avec des sujets qui effectivement sont de plus en plus clivants lorsqu'ils sont mis, on va dire, en débat, et qu'il est difficile finalement pour des personnes qui essayent d'y voir clair, de comprendre les enjeux, et qui ont plutôt tendance à repousser tout cela en se disant « c'est pas mon problème », ce qui ne contribue pas à améliorer le vivre ensemble.
Oui, pourquoi ces quatre sujets me paraissent particulièrement importants? Parce que, en fait, c'est les sujets qui sont les conditions de possibilité du débat. C'est pas simplement des éléments de discussion, c'est vraiment, si on n'a pas la même langue, c'est difficile de débattre ensemble, si on n'a pas les mêmes références, en quelque sorte historiques ou de culture générale, si on n'a pas la même conception de la vérité, ça va être très très difficile de discuter ensemble. C'est pour ça que ces piliers-là me paraissent particulièrement importants. Alors, à la Sorbonne, au Moyen-Âge, il y avait une pratique qui était la pratique d'examen, en fait, que je trouve très très intéressante et qui pourrait être réactivée aujourd'hui, c'est qu'on demandait aux étudiants, quand ils passaient notamment le bac, non pas de faire une leçon, comme on dit, mais de faire une disputatio, ce qu'on appelait une dispute. C'est-à-dire, on faisait venir deux candidats, je caricature un peu, mais, et on leur donnait, on les forçait à adopter une position, hein, indépendamment de ce à quoi ils pensaient. Et cet exercice de la disputatio qui nous oblige, en quelque sorte, à défendre une position qui n'est pas forcément la nôtre, et qui peut-être n'est pas la nôtre, c'est très très positif, parce que ça permet de penser contre soi-même, et si on... collectivement, nous nous forcions à penser contre nous-mêmes, c'est-à-dire quand on n'est pas d'accord, au lieu de céder spontanément dans un clic ou dans un tweet rageur à notre émotion, c'est-à-dire tiens, mais essayons de penser comme l'autre, c'est-à-dire comme mon objecteur. Là, ça serait très intéressant parce qu'on s'apercevrait qu'effectivement, l'autre n'est pas un méchant ou un salaud ou un idiot, mais peut avoir des arguments. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer d'avis. Ça veut dire simplement qu'en intégrant le point de vue de l'autre, d'abord notre position sera plus forte, plus argumentée, et cette cette espèce d'hygiène intellectuelle serait un élément extrêmement positif dans les débats contemporains. C'est pour ça que j'essaye d'aborder de cette manière, sous forme de disputatio, les quatre sujets sur l'écriture inclusive, pour voir ce qu'il y a de positif et quelle est l'intention de l'écriture inclusive, et puis ce qui est beaucoup plus fâcheux, je termine avec l'idée que ça me paraît fâcheux, parce que pour une raison, au fond, très simple, c'est que l'écriture inclusive, il n'y en a pas qu'une. Voilà, il y en a plusieurs, chacun défend son écriture inclusive, et si on a chacun sa langue, ça va être très très difficile de discuter ensemble, parce que la langue, c'est d'abord de la communication.
Il faut donc un consensus autour de la langue pour pouvoir en débattre quelque part.
Un consensus minimal, oui. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec la langue, les écrivains jouent avec la langue, mais sur la base d'un consensus minimal qui fait que chaque transgression, en quelque sorte, je pense à Mallarmé ou d'autres poètes qui ont transgressé la langue, mais chaque transgression s'inscrit malgré tout dans un monde commun, pour qu'on puisse d'ailleurs identifier la beauté de la transgression. Il faut qu'on continue à l'identifier. Voilà, pour l'histoire ou pour la question de la vérité, on est du même ordre. Si vous voulez, si on se dit bah les vérités, ça n'existe pas, c'est à chacun sa vérité, il n'y a vraiment aucune chance d'y arriver. Si on considère en revanche que la vérité, c'est davantage un processus, c'est un processus d'argumentation où on doit céder à une loi très simple quand on discute, la loi de l'argument le meilleur. Cette loi, en fait, si on s'y soumet collectivement, on est à égalité. Mais ça suppose effectivement qu'on accepte cette loi de l'argument le meilleur et le rapport effectivement aussi au réel.
Mais c'est justement plus du tout le cas aujourd'hui. Quand vous regardez n'importe quel débat dans les médias, vous avez une suite d'injonctions qui sont faites par les uns et par les autres, mais absolument aucune notion même du débat ou de l'argumentation autour de ces injonctions.
Je serais pas aussi sévère que vous à l'égard des médias, c'est paradoxal. Parce
non, mais à l'égard de ceux qui viennent débattre dans les médias, moi, je sais pas.
Oui, mais même, oui, il y a pour une bonne part des gens qui sont dans cette logique-là, puis il y a dans les médias des moments d'argumentation. Bah, par exemple, on en a un en ce moment, me semble-t-il, qui paraissent tout à fait raisonnables entre gens bien élevés, je crois, en tout cas, j'essaie de l'être. Et donc, vous voyez, c'est pas hors de portée, et je pense que quand on est auditeur, on apprécie quand même beaucoup plus d'apprendre des choses, de pas être dans la vindication et dans l'insulte, et que c'est en vérité beaucoup plus agréable que cette lutte des clashs, comme je l'appelle, hein, ouais. La lutte des clashs, c'est-à-dire effectivement ce coup d'éclat permanent qui est assez détestable. Ouais. Mais je ne nie pas que ça existe. Hein. Mm-hmm. Simplement, je pense que c'est pas évidemment la nature profonde de l'univers médiatique.
Tiens, puisqu'on vient de parler de médias et d'univers médiatique, quel est votre regard sur le succès de podcasts qui reviennent sur une question d'actualité, mais étendue, traitée sur le temps long, en une demi-heure, trois quarts d'heure, etc. C'est très étonnant de voir, en tout cas en Belgique, je ne sais pas en France si ça existe, mais à quel point il y a un besoin, à un moment, de pouvoir se poser, comprendre une question d'actualité et comprendre avec une série d'intervenants, donc de points de vue différents, cette question d'actualité.
Tout à fait, je trouve que c'est un élément justement qui témoigne, voilà, typiquement la forêt pousse, puisqu'on a envie d'être dans une logique d'appropriation personnelle. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que ça concurrence les livres, parce que les podcasts sont malgré tout beaucoup plus compatibles avec la vie moderne qu'une mm-hmm. concentration dans un livre, donc il y a en effet ce point-là, mais après tout, ce nouveau rapport à la culture, le podcast, c'est quelque chose qui permet d'avoir une idée malgré tout rapide, pas forcément très approfondi comparativement à un livre ou à un film beaucoup plus important, mais qui peut donner envie ensuite d'aller approfondir telle chose. Donc je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement positif, et en effet, vous avez tout à fait raison, c'est un élément de cet arbre, de cette forêt qui pousse et qu'il ne faut pas négliger.
Avec aussi, heureusement quand même, dans le chef du livre, mais aussi de nos auditeurs, des éléments de ce besoin de vivre ensemble, notamment, et souvent sont soulignés des éléments de solidarité ou de convivialité, de générosité. Et comme le disait cet auditeur tout à l'heure, l'homme n'est pas fait pour vivre seul.
Oui, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Enfin, l'homme, c'est un animal un peu étrange. Seul, il meurt. Avec les autres, il tue. Voilà, pour caricaturer les choses. Donc, il a quand même beaucoup de mal avec les autres, même s'il ne peut pas vivre tout seul. Donc, tout le problème de la société, c'est effectivement ça. C'est-à-dire comment vivre ensemble sans s'entretuer. On a tous expérimenté le fait de partir en vacances avec des amis très très chers et on s'aperçoit au bout de 3 jours que c'est pas une très bonne idée et on a envie de les massacrer. Enfin, j'exagère un peu, mais ça peut arriver, cette expérience. Et donc, voilà, il faut trouver de bonnes raisons de ne pas le faire. Alors, il y en a plein. Il y a le droit, la morale, la politique. Et puis, il y a aussi la civilité, c'est-à-dire les bonnes manières qui sont pas négligeables. Et là aussi, on est dans une société où on voit monter les incivilités avec ce sentiment. Effectivement, il y a quelque chose qui se détricote, qui a été tricoté pendant très longtemps. La civilité, les bonnes manières, les politesses, etc. Il faut peut-être voir aussi comment cette civilité est aussi en train de se reconfigurer, c'est de se réadapter, de se réinventer. C'est plus compliqué là encore, mais je pense que là aussi, il y a une forêt qui pousse, c'est-à-dire ce désir de vivre ensemble. Et je le redis encore, hein, vraiment de se dire, j'ai envie de grandir, de m'améliorer, et la seule manière pour y parvenir, c'est de faire grandir les autres, c'est-à-dire de faire grandir aussi la société autour de moi, de faire grandir mes enfants, si j'en ai, de faire grandir mon entreprise, de faire grandir mon média, de faire grandir mon association, de faire grandir cette convivialité. Et c'est vrai que ces moments de solidarité sont des moments où on a le sentiment, effectivement, de se protéger collectivement, mais aussi de faire grandir collectivement. Et c'est très fort.
Mais alors, pourquoi ça ne fonctionne pas au niveau politique, Pierre-Henri? Pourquoi, alors que les chiffres sont là, Paul, la preuve est là que la solidarité fonctionne, qu'il y a un besoin de vivre ensemble, pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui de mettre en place un nouveau récit commun? Un récit partagé, un récit d'avenir. Aujourd'hui, on le voit au niveau politique, il n'y a plus de récit d'avenir ou peu de récit d'avenir.
Je pense précisément parce qu'on n'a pas, on a du mal à envisager ce trésor de la démocratie. La démocratie, c'est le seul régime dans toute l'histoire de l'humanité qui dit, au fond, tous les humains sont grands. Voilà, tous les humains sont grands. Mais dans toutes les civilisations passées, il y avait quelques grands. Et puis tous les autres étaient petits. Voilà. Et la masse était énorme. Là, tous les humains sont grands. Deuxièmement, tous les humains peuvent grandir. Et nous pouvons grandir ensemble. C'est le grand défi. Ça, c'est difficile à faire. On l'oublie, ça. Parce qu'on est, en quelque sorte, convaincu que la démocratie, ça marche pas. C'est une catastrophe. C'est très déceptif, la démocratie. Hein. Il faut bien l'avoir.